Alors, on va
vous
Ce jour-là, c'est la première fois qu'on fête l'anniversaire de mon père, Ahmed. Souvenez-vous de son nom, vous allez l'entendre souvent.
Merci, c'est beau.
Donc voici ton premier anniversaire.
Comme beaucoup d'immigrés marocains, il ne connaît pas sa date de naissance.
Mieux vaut tard que jamais.
T'as quel âge ?
Normalement, c'est 70 ans d'après les...
Ouais, bravo.
Premier anniversaire.
Mon père s'en est accommodé pendant, disons, 70 ans. Mais je crois que cette année, c'est l'année de trop. Papa t'es né quand ? Un documentaire d'Anissa Rami, réalisé par Samuel Hirsch.
Je sais que je n'ai pas 70 ans. C'est un pressentiment. Quand je vois les gens de 70 ans, ils sont abîmés. Et moi, j'ai les cheveux blonds, mais il y a la peinture. Je peux mettre de la peinture comme ça, mais parce que mon visage n'a pas de rides. Ça, c'est beau. Et ça, c'est mon premier passeport. J'étais beau. La seule chose que je vois, j'ai une petite lèvre en bas qui est basse, qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas s'il plaît à ma femme.
Je fais souvent des allers-retours entre Paris et la Normandie, là où je suis née. Mes parents se sont rencontrés à Angers, mais c'est ici qu'ils ont décidé de s'installer. Et si je vais là-bas, ce jour-là, c'est parce que j'ai pris une décision. En tant que fille et en tant que journaliste, je vais faire une enquête et je vais retrouver la vraie date de naissance de mon père. Comme d'habitude, c'est ma mère Brigitte et mon frère Samir qui viennent me chercher à la gare.
Tu les as noircis en plus ?
Bah j'ai coupé les pointes, donc du coup c'était les pointes qui étaient...
Ah, qui étaient plus claires.
Ouais.
Ah, c'est drôle.
T'as vu ? Et c'est ma couleur naturelle, elle est comme ça en fait.
Oui.
Ah non, ça va ? Ça va, chouchou ?
Papa ?
Salut !
Moi, je t'attendais ?
Ce qui est drôle quand on rentre chez ses parents quand on est adulte, c'est qu'on retrouve tout de suite sa place, son rôle et ses habitudes. Ma mère prend de mes nouvelles et m'achète mes yaourts préférés. Mon père prépare le couscous et fait des blagues et des métaphores de grand sage. Quand j'étais petite, il avait réponse à tout. Mais cette fois-ci, il ne peut pas me répondre quand je lui demande « Papa, t'es né quand ?»
J'ai 3 dates de naissance. La première, c'est celle que j'ai ramenée avec moi du Maroc, 31-12-1953. La deuxième, c'est ce que la police m'a donné, 1-1-1953. Et la troisième, c'est ce que la caisse primaire d'assurance maladie m'a donné, 12-12-1953.
C'est les flics qui ont déterminé mon âge. Mais de quel droit ?
Quand tu dis les flics, c'est qui ?
Mais les flics, au début, quand on est arrivé en France, nos rapports, c'est avec les flics, ça veut dire ceux qui s'occupent de l'immigration. J'étais immigré. Quand tu demandes la nationalité française, on te l'accorde ou on ne te l'accorde pas. Moi, on me l'a accordé. Ils te donnent un passeport, une carte d'identité. Et c'est là où j'ai découvert que je suis né le 1-1-1953.
Libérer les détenus, ceux qui sont en prison. Libérer nos amis, ceux qui sont en prison. C'est dans les chants révolutionnaires, on dit libérer les détenus. Ceux qui sont en prison. Moi, je n'ai pas d'anniversaire. C'est comme un train qui marche. Il a des rails et puis il roule. Il va de A à B, mais il ne sait pas combien de kilomètres il a fait. C'est moi.
Voilà. Libérons. Libérer les fleurs.
Comme la communication n'est pas la première qualité de mon père, ma mère aussi n'a pas compris tout de suite.
Je pense qu'il s'est passé plein de mois ou d'années où moi je croyais que c'était 31-12-53. Et c'est en fait un jour peut-être que j'ai voulu dire, ben tiens, est-ce qu'on va fêter ton anniversaire ou... Ah mais de toute façon, ça c'est... la date elle est comme ça, on ne déclarait pas systématiquement les enfants à l'époque où je suis née. Et du coup, c'est une date administrative. Dès que j'ai vu la maman d'Ahmed, je lui ai demandé si, à quel moment elle avait accouché. Et c'est là que quand elle m'a dit qu'elle avait accouché l'été, je me suis dit, bah, c'est quand même pas normal d'accoter une date de naissance comme ça au mois de décembre.
Ça fait plus de 40 ans que vous connaissez et vous n'avez jamais fêté son anniversaire.
Voilà, c'est ça. Et puis on n'a jamais fêté notre anniversaire de mariage. Moi, je m'adapte. Hein.
Mon père fait partie de ceux et celles qu'on appelle les 01. Ces milliers d'immigrés qui sont venus en France sans connaître leur date de naissance, faute d'état civil. Et à qui l'administration française a arbitrairement attribué celle du 1er janvier ou du 31 décembre.
Je vais trouver ma date de naissance. Ce sera ma date de naissance, mais elle ne sera dans aucun papier, mais ce sera dans ma tête à moi. J'ai mon passeport marocain, je le garde, c'est une partie de moi-même, parce qu'il indique en arabe d'où je viens, Rami Ahmed, même le Kalmaribia, royaume du Maroc. J'ai un blouson noir, j'ai un pull rayé et une chemise blanche. Mon père il s'appelle Houman, ma mère s'appelle Yamna. J'ai deux filles et deux garçons, et apparemment ils connaissent leur date de naissance. Pour la première fois, j'ai pris conscience que ça compte pour moi pour éviter que quelqu'un me donne une date comme ça, à sa guise.
En fait, ce que je comprends au fur et à mesure, c'est que ce qui compte vraiment pour mon père, c'est l'histoire que lui a racontée sa mère. Elle ne lui a parlé d'aucune date. Elle, son repère, c'est un événement marquant. Elle se souvient qu'il est né après le passage du sultan Mohamed V dans son village.
J'ai posé la question à ma mère qui m'a répété quand le roi est passé. On est monté à la route principale pour l'applaudir. À ce moment-là, j'étais enceinte. 6 jours après, tu es né. Maintenant, ça pose une question. Donc moi, je ne suis pas né en 53, je suis né en 55. Voilà, cette date-là, elle est restée dans ma tête. Et je voulais à tout prix arriver à trouver ce jour-là, depuis que j'ai entendu ça, à quelle date le roi est passé devant chez nous, entre Fès et Meknès.
De retour à Paris, je demande conseil à mon amie Zineb El-Garbi. Elle est marocaine et doctorante en sciences sociales à l'EHESS. Quelques jours plus tard, elle me retrouve ce document.
Là, on regarde une vidéo dans les archives de l'INA. Mmh. Daté au 24 novembre 55 dans des actualités françaises sur le retour de Sa Majesté le Sultan. C'est ici.
C'est en souverain que Sidi Mohamed Ben Youssef,
redevenu Mohamed V, sultan du Maroc, a quitté la France pour retrouver son trône après 2 années d'absence. Accompagné de ses fils, le sultan a pris l'avion mis à sa disposition par le gouvernement français après avoir remercié le peuple français de son accueil et affirmé la continuité de l'amitié franco-marocaine.
On a fini par retrouver une date, le 18 novembre 1955. C'est le jour où Mohamed V a atterri à Rabat pour annoncer son retour. Mais aucune trace d'une parade en été. Ce qu'on trouve, c'est une parade en plein hiver, à des centaines de kilomètres du village de mon père. J'y comprends plus rien.
Voilà, c'est magnifique. Vas-y.
Ah ouais, ils sont trop bons. Waouh.
T'as vu? C'est exactement la même que celle-là. Pour que d'autres arrivent, il faut que tu enlèves ça.
Mais toi, comment tu faisais pour savoir que tu avais un an de plus? Comment tu comptais les années?
Mais je ne compte pas les années. Mais moi, je n'ai jamais eu d'anniversaire. Pour nous, à la campagne, l'année n'a pas d'importance. Par contre, les saisons, oui. Parce qu'ils ne vont pas semer le blé par rapport à l'année. Ils vont le semer par rapport aux saisons. C'est l'hiver, c'est la semence des blés. C'est l'automne, c'est le carmos, tu vois, les figues. En fin de compte, notre vie, était conditionné par les saisons et non pas par les années. Je suis un fils de campagnard, un fils de paysan, et je suis né dans la campagne. J'adore le jardinage parce que c'est, tu fais des choses et tu les vois vivre. C'est comme tu fabriques des gamins. Les enfants arrivent à un certain âge, ils partent, tu es parti. Mais on te voit de temps en temps. Les arbres, ils sont là, on les voit tous les temps. Tous les matins, on se lève. Et en même temps, on les entretient. Moi, je suis marié avec la terre. Et avec Brigitte aussi.
Quand même.
La première fois que vous êtes allés au Maroc ensemble, en tant que couple, mais il n'arrivait pas à se souvenir. Il a dit, tu demanderas à ta mère.
Oh, c'est pas possible. On s'est connus le 9 février pendant une boum d'étudiants. Le 14 février, c'était la Saint-Valentin. Et le 15 février, c'était mon anniversaire. Donc déjà là, entre le 9 et le 15, on est restés ensemble dès la première fois. Et donc, moi, j'étais à l'école d'infirmière, enfin en tout cas la première année. Mes vacances d'été, on est partis ensemble au Maroc. Il avait l'habitude de partir avec des amis et moi, j'en connaissais aussi. Donc on est partis avec nos amis au Maroc. Moi, quand j'ai rencontré Ahmed, évidemment, j'étais amoureuse de lui seulement puisque je l'ai connu tout seul. C'était un coup de foudre tous les deux. Mais en même temps, après, quand j'ai connu sa famille, comme dirait Céline Dion, je suis tombée en amour de sa famille parce que une famille très aimante, ce que j'avais pas. Voilà, c'est ça.
Ça va aller, maman. Ça va aller. Tu vas me faire pleurer, moi aussi, là. Pourquoi tu penses qu'il cherche sa date de naissance?
Il essaye de se prouver qu'il est plus jeune. Depuis un petit moment. À l'observer, à l'entendre, je vois bien qu'il a du mal à accepter de vieillir. On regarde la télévision, que ce soit un film ou des acteurs qui parlent. Ou même un journaliste, à chaque fois, la première chose qu'il dit, oh là là, comment il est devenu? À chaque fois, je lui dis, c'est normal, il vieillit, il est comme nous, on vieillit. Genre, la personne, il la trouve pas jolie. Alors, et moi, à chaque fois, je lui dis, c'est beau la vieillesse, c'est juste différent, mais la personne, elle est belle.
Une phrase de Jacques Brel qui disait, mourir, ce n'est rien. Mais vieillir, c'est dur.
Si c'est 70 ans, en fin de compte, j'ai encore entre 10 ans et 15 ans pour quitter ce monde. Si c'est 65 ans, c'est me rendre justice qu'en fin de compte, je n'ai pas 70 ans. Je pense qu'on a un gène qui va plus loin. Parce que mon père, il est mort aux alentours de 110 ans.
Lui, tu connais sa date de naissance?
Non, je ne connais pas la date de naissance de mon père. Mais quand il raconte les rois qu'il a connus, tu détermines avec un écart de 5 ans l'âge qu'il a. Donc, j'ai mon frère Al-Hajj à Angers. C'est mon grand frère, c'est le premier qui est venu en France avec un contrat pour devenir maçon. Il est en train de s'approcher de 95 ans. J'ai envie de profiter de ce gène-là.
Chaque immigré a une histoire qui l'a poussé à venir en France. Certains sont venus pour travailler, étudier, rejoindre leur famille. D'autres pour fuir ou pour chercher un avenir meilleur. Mon père, lui, a rejoint son frère en France en 1975 et il a étudié. Beaucoup étudié. Économie, comptabilité et il a même fait une thèse en sociologie. Mais derrière cette version officielle des études, il y a une autre raison à son départ que j'ignorais complètement.
J'avais quelque chose de très important qui conditionne mon départ en France. On va à la source le samedi et dimanche et pendant les vacances. Je me rappelle, c'était les vacances.
Et ce jour-là, je suis descendu pour pêcher et j'ai lancé ma ligne et il y a une tortue. La tortue, elle a regardé ça et hop, elle a bouffé. J'arrivais pas à l'enlever, tout ça. Donc, j'ai coupé la tête de la tortue, j'ai enlevé ma ligne, j'ai jeté la tortue et j'ai continué à pêcher. Et quand je suis remonté à la maison, j'avais mon œil qui était rouge. Le fait que je lui ai coupé la tête, tout ça, le type de la mosquée, et il a dit oui, c'est la tortue qui m'a jeté un sort. Donc j'ai gardé ce blond-là qui m'a suivi pendant toute ma vie. En tant qu'enfant qui faisait son adolescence et tout, il y a des gens qui sont méchants, qui m'appellent le borgne, d'autres qui se moquaient de moi tout le temps. Et moi, la France, c'était la libération. C'est ma mère, en fin de compte, à qui j'ai dit « je ne vais pas aller à Rabat parce que je n'ai pas de perspective pour réparer mon œil. Je dois aller en France. » Et c'est la première chose que j'ai fait dès que je suis arrivé en France. On m'a opéré et j'ai vu que je n'ai plus de blanc dans l'œil. La war, le borgne, je l'ai enlevé de ma vie. Je pense que c'est le jour le plus beau de ma vie. Ça, c'est la nouvelle naissance.
La nouvelle naissance. Cette phrase de mon père me reste en tête. Il ne se souvient d'aucune date dans sa vie, ni le jour où il est arrivé en France, ni les anniversaires de ses enfants, ni son mariage. Pour lui, ce sont les événements qui comptent, pas les dates. Comme lorsque sa mère lui raconte qu'elle a accouché après la parade du roi. Je me demande si mon oncle El Rayat a le même problème pour se souvenir des dates. J'espère que non, parce qu'on a besoin de lui pour qu'il me raconte la date de naissance de mon père et le passage de cette parade.
Salam alaikum.
Ça va, tonton? Ça va, et toi? Est-ce que toi et tonton, chacun pouvait raconter un souvenir que vous avez avec votre père?
C'était quelqu'un qui rigolait tout le temps, déjà. Il blaguait et il chantait le berbère. Et il avait toujours un poste radio branché sur les berbères.
Lui, il écoute le radio là, toi tu parles, lui, il n'est pas content.
Qu'est-ce que tu sais, toi, de ta date de naissance?
Je pense pas. Ouais.
Quand il a voulu venir en France, là, effectivement, il fallait avoir une date de naissance.
Toujours bien habillé, avec une longue barbe blanche parfaitement taillée, mon oncle n'a jamais rêvé de la France. À l'époque, c'est un ami qui l'incite à partir pour y travailler. Il est donc arrivé là, un peu par hasard, en vendant sa jument pour se payer le voyage. Lui aussi, c'est un 01.
Donc voilà, ça c'est l'état civil de mon frère.
Tu veux voir sa photo? À tonton.
C'est un motard, les motards.
Je te reconnais pas. Il n'y a pas sa date de naissance à lui, c'est bizarre ça.
Non, ils n'ont pas mis.
Non, cool, c'est cool, c'est rien de tout.
Alors, tarikh l'Irdiyad. Ah non, si.
C'est écrit quoi?
1352.
Vous entendez ce silence? Né en 1352. Alors là, je m'y attendais pas.
Parce que la date musulmane et la date française, ils ont à peu près 600 ans de différence entre les deux.
Et mon père qui en rajoute une couche. On n'est pas à 600 ans près. Là, franchement, tout le monde est de plus en plus perdu dans la chronologie de cette histoire.
C'est bizarre.
Bon, en fait, cette date vient du calendrier de l'Hégire, c'est-à-dire de l'exil. Le calendrier musulman ne commence pas à la date de naissance du prophète, comme dans le calendrier chrétien à la naissance de Jésus. Il commence après la fuite du prophète Mohammed vers la Mecque. L'exil comme nouvelle naissance.
Tu t'en souviens, toi, du moment où le roi il est
passé?
Voilà, il se rappelle bien de ce passage-là, mais il ne sait pas à quelle date. Ça veut dire qu'il y avait l'herbe et il y avait de la chaleur. Donc, en fin de compte, c'est la période mai, juin, juillet.
J'ai vu que le roi qui l'a passé, passé dans la voiture, Il fait les mains comme ça pour tout le monde, là. Mais il marche doucement.
Et papa, il était né ou il était pas né encore?
Ah, voilà, bon, alors. Petite, oui, mais je me rappelle pas, parce que c'est dans le temps. Hein, c'est... Et encore, le cerveau, il est pas comme là-bas. Comme... c'est pas pareil.
À force de remuer ses souvenirs avec son frère, le lendemain, au petit déjeuner, je vois que mon père est silencieux et pensif. D'accord, il n'est pas du matin, mais là, il a l'air d'avoir vraiment très mal dormi. Je lui demande si tout va bien.
Dans cette recherche de date de naissance, tout remonte dans mon esprit, tous des souvenirs qui arrivent. De plus en plus, je réfléchis. Je pense que je suis né plus tôt dans les années 51, 52 que 53. Alors, pourquoi ? La photo de classe que j'ai, c'est une photo de 1955. 55, 53, ça veut dire que j'avais 2 ans. Eh bien, c'est pas possible, il y a un problème. Il y a un problème sérieux.
Ok, donc moi je fouille des archives, je fais des recherches pour savoir si mon père est né en 55. Et là, j'apprends que depuis le début, il a une photo de classe qui date de 1955 et qu'il ne m'en a jamais parlé. En fait, cette photo, il l'a perdue. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard.
Je ne peux pas rentrer à l'école à 2 ans. On rentre à l'école à 6 ans ou à 7 ans. Donc les petits sont assis en bas, les moyens au milieu et les grands à l'arrière. Et moi, j'étais donc parmi les petits en bas. La deuxième chose, c'est quand j'étais hospitalisé pour mon œil à l'hôpital de Fès. Comme il n'y avait pas un hôpital pour les enfants, on me mettait avec les grands. Il y avait un bonhomme qui était un vieux connard. Je pense que j'ai été pédophile, ça c'est sûr. Et qui voulait jouer avec moi. Et alors moi, pour m'échapper, je passais sous le lit et il ne peut pas m'attraper. Donc j'étais petit. Si je passe sous le lit, ça veut dire que j'étais petit. C'est, en fin de compte, ça, maintenant, ma mère, j'ai mal à la gorge.
Tu veux de l'eau ?
Oui.
Cette quête fait remonter des souvenirs d'enfance, les bons comme les mauvais. Et moi, j'apprends plein de choses que je ne savais pas. Mais ce que je me dis surtout, c'est qu'avec l'apparition de cette photo de classe, c'est impossible qu'il soit né à la date dont parle sa mère, après le retour du roi Mohamed V.
Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne pense pas que ma mère a fait... Mais ma mère, elle était très, 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 très consciente. Elle était plus rationnelle que mon père.
Ce matin, quand tu t'es réveillée, tu t'es dit « Oh là là, finalement, je suis peut-être plus vieux que je ne pense. »
Pour moi, l'âge n'a pas d'importance. C'est la recherche de ton origine. C'est chercher quand je suis né. C'est même pas quand, le jour ou la date et l'heure, mais au moins l'année où je suis né.
Pour retrouver sa vraie date de naissance, mon père fait face à un dilemme. Rester fidèle au récit de sa mère ou accepter le souvenir de cette photo de classe. Pour trouver des réponses à nos questions, on décide d'aller tous ensemble au Maroc. Sur place, dans le village natal de mon père, les souvenirs vont peut-être se remettre en ordre.
Papa, c'est la mienne, c'est la mienne.
C'est la sienne, ça ?
Ah oui, pas trop tard.
Je l'ai vu déjà passer.
Ah d'accord.
Mais comme j'ai vu que t'es bûché derrière, j'ai dit, je pense pas que...
Bah, c'est Danissa, on l'a abîmé.
Elle a fait la guerre.
On vient tout juste d'atterrir à l'aéroport de Fès, avec mes parents, mes frères et mon neveu Adèle. À peine arrivé, et il faut déjà gérer le stress du voyage, les changements d'humeur de mon père, son envie de tout prendre en main et mon envie de tout prendre en main. Pour cette enquête, je comprends que je vais devoir être très, très, très patiente. Pour le moment, on rejoint mon cousin Abslem qui est venu nous chercher à l'aéroport.
Ça va ? La baisse ? La baisse.
Depuis que je suis petite, j'ai passé presque tous mes étés ici, à Meya, au nord du Maroc, pile entre Meknès et Fès. L'allée des Oliviers et la route cabossée, c'est le moment où je me disais « ça y est, on est arrivé ». les enfants nous ouvrent le grand portail rouge et blanc. Et on entre dans une cour en terre. Les poules se baladent entre les figuiers, le linge étendu, les moutons et le four à pain. Pendant que mes petits cousins courent sur le carrelage de la maison. À 9h, à 14h, à 17h et à 22h, on mange. Donc c'est sûrement le premier mot que j'ai appris en marocain. Cool. Comme mon père ne m'a pas appris le dalija marocain et que chez ma famille de la campagne, presque personne ne parle français, avec ma tante Daouya, on se répète souvent les mêmes blagues.
Daouya, qu'est-ce qu'il y a ?
Khabzul hindiya.
Mange bien.
Comme le chien.
Papa ? Viens voir, il y a un bébé qui est né. Si, il vient juste de sortir.
Oui, parce qu'il y a juste la deuxième partie qui arrive.
Tu regardes, tu le vois par terre là-bas ?
Oui, c'est bien.
C'est le thème du reportage.
La petite voix, c'est celle de ma mère. C'est la reine du spoil et de la petite phrase, toujours placée au bon moment. Le dernier indice qui a chamboulé mon père, moi et toute notre enquête, c'est le souvenir de sa photo de classe. On va donc directement à son école primaire, à quelques minutes en voiture de la maison, pour retrouver cette photo. Mon père, comme à son habitude, n'y croit pas, mais s'il ne l'avait pas perdue, on n'en serait pas là, donc je le motive un peu, et c'est parti.
C'est des pommes de terre ici à mettre ?
Ouais.
Juste devant l'école.
Je vois personne à l'intérieur. Hein.
Le directeur n'est pas là, c'est un parent d'élève. Donc les gens sont partis en manifestation, on va changer de programme.
La bidi, la bidi.
Tu veux faire
Tu veux faire l'arhmo.
Tu veux faire l'arhmo. Où est-ce que tu veux
Son père, il était avec moi. Il était jeune, exactement, et il est mort. Tous les gens avec qui j'étais à l'école, ils sont morts. Il disait que si on veut avoir les archives, c'est la province de Meknès qui s'occupait de cette école-là, qui archive les dossiers d'ici. On va aller leur demander s'ils ont des restes, des archives de l'école du Maya au moment où on était là.
Oui, c'est ça.
C'est possible, si on a une chance.
Pour que je reconnaisse le bâtiment, un cousin m'envoie la photo sur Instagram. Ma mère lit tous les panneaux administratifs en français et mon père qui conduit, comme d'habitude, il n'en fait qu'à sa tête. On n'avait pas compris, mais en fait, c'est une grève nationale. Du coup, on tombe sur une manifestation des enseignants qui bloque le portail des archives. Décidément, impossible de mettre la main sur cette photo. Mon père a peur de la répression. Il ne veut pas que je sorte le micro. Et c'est le moment qu'il choisit pour me raconter ses années de militant politique.
Moi, j'appartenais à Il est même en avant, organisation marxiste-léniniste. Le mouvement étudiant au Maroc, les années 68, il y a énormément de gens qui sont morts, d'étudiants qui sont morts, tués par la police, exilés, mis en prison. Tous les lycées sortent et on se retrouve dans la rue. Sur les banderoles, il y avait Humafin, Humafin, ou la Tchab al-Mortofin. Où sont-ils les enfants du peuple marocain qu'on a kidnappés? Mais on n'a jamais dit le régime, abat le régime, non. On dit l'Hurriya, la liberté, la liberté, la liberté, c'est tout. J'allais dans les manifestations, mais j'étais très discret. Je savais que moi, mon avenir n'est pas au Maroc.
Il
Bon, tant pis pour cette photo. Retournons plutôt creuser dans l'histoire de ma famille et surtout celle de ma grand-mère Yamna. Qui était-elle et comment a-t-elle pu se tromper sur la date de naissance de son fils ? Pour que mon père me parle d'elle, nous allons au cimetière où mes grands-parents sont enterrés.
Allez Samir, monte sur le pont.
Au milieu de nulle part, au loin, on entrevoit quelques tombes blanches.
Là où tu vois la végétation, tout ça c'est des tombes.
Le blanc des tombes embrasse le rouge des coquelicots, les fleurs préférées de mon père.
La tombe de ma mère. Elle est enterrée en 1995.
Elle était très belle. Elle avait un... comment elle s'appelle ?
Un tatouage.
Un tatouage sur le menton qui sépare les mentons en deux. Elle était très, très, très intelligente. Mon père, elle était derrière et elle devant. J'étais tout le temps avec ma mère. Tout le temps. Là où elle part, j'étais avec.
Elle n'a jamais été à l'école, mais elle savait calculer. Il y avait un associé de mes parents qui habitait à Meknès qui disait à ma mère, « Bah écoute, maintenant c'est toi qui mets le pantalon et tu donnes la robe à Hamoun Boumdine. » Tu vois, c'est, en fin de compte, il a voulu dire, « C'est toi l'homme et c'est lui la femme. »
Je pense que ma mère, elle a joué un rôle très, très, très important dans la famille.
Comment elle était, Mamie Yamna ?
Alors là, ça va être difficile parce que ça, je vais être très émue. Parce que c'était une personne formidable. Elle faisait tout pour tout le monde. Dynamique, même si moi je l'ai connue, elle commençait un peu plus âgée, mais quand même, elle faisait plein de choses et surtout toujours très souriante. D'ailleurs, son mari aussi. J'ai fait la cuisine un petit peu avec elle et il y a des choses dont je me rappelle encore tellement, tellement je l'aimais. Elle, c'était vraiment comme une... comme tout ce que j'ai pas eu par ma maman. C'est pas facile à expliquer parce que c'est de l'émotion.
Et pourquoi ça t'émeut comme ça d'en parler ?
Parce que c'est difficile d'avoir perdu quelqu'un qu'on aime beaucoup.
Je n'ai pas connu ma grand-mère, mais j'ai toujours connu Daouya. Je suis son petit-fille, comme elle dit. C'est la femme de mon oncle Archibald, qui habite toujours dans la maison familiale, cultive les terres et élève les moutons. Depuis quelques années, elle est devenue aveugle. Mais elle n'a pas du tout perdu sa mémoire.
Donnez-moi un bisou.
Un bisou.
Un bisou. Oh. Aziza. Aziza, Anissa. Oh là 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 là.
C'est Mamie Yamna qui l'a fait accoucher de ses 6 enfants à la maison. J'aimerais qu'elle me parle d'elle.
Comment elle était, Yamna ?
Elle était mieux que sa mère.
Quand elle pense à elle, elle a envie de pleurer. Elle est déjà fatiguée.
Mais non, mais, alors demande-lui si elle est fatiguée pour parler. Elle parle pas à sa place.
Le sujet de ma grand-mère est sensible. Les souvenirs sont douloureux. Hors enregistrement, les hommes de la famille disent qu'un jour elle a mangé une plante qui l'a rendue folle. Mais les femmes de la famille, elles, se sont transmis l'histoire de ma grand-mère de génération en génération. Elles disent qu'elle est devenue folle parce qu'elle a perdu beaucoup d'enfants. Pendant cette période, mon père était encore petit, mais les souvenirs sont toujours vifs.
Ces moments-là, c'est vrai que c'est resté gravé dans mon esprit. Je pense tout le temps. Elle criait, elle tombait par terre, elle frappait les gens. Je me rappelle très très bien, c'est les enfants qui passaient devant la maison et disaient « Oh, la folle, la folle !» Et elle sort et elle courait derrière les enfants.
Ma tante Khadija raconte qu'elle a vu ma grand-mère enterrer seule son enfant mort dans le jardin, les mains pleines de sang. Elle raconte aussi qu'à cette période, Mamie Yamna a essayé de l'ébouillanter. Même si elles sont racontées avec beaucoup de détachement, les histoires que je découvre sont de plus en plus dures à entendre.
Dans notre maison, on avait une grande chambre où mes parents dormaient. C'est la chambre en bas. Et c'est là où ils ont enfermé ma mère, dans cette chambre-là. Et quand je rentre dans la chambre avec elle, je me mets à côté d'elle. Elle me prend dans ses bras et tout ça. Mais c'est les gens qui n'ont rien compris. c'est par rapport au village, c'est quelqu'un qui est devenu dangereux. Mon père et son frère, qui est mon oncle, ils ont dit, ben, ça y est, il était folle, il fallait s'en séparer. La dernière où j'ai assisté, c'est quand ils ont donné le couteau à mon frère Lassène. Ils lui ont dit, mais écoute, vas-y, tu la tues. Et mon frère Lassène n'a pas pu effectivement exécuter leur souhait. Il est retourné, il a... Voilà.
J'ai du mal à raccorder toutes ces histoires entre elles. Comment, au cœur d'une famille où ma mère a vu de l'amour, où mon père raconte que son père était toujours en train de faire des blagues, que sa mère était la tête pensante de la famille, comment ça peut coller avec des récits aussi sombres et violents? Ça a l'air surréaliste, mais je crois que c'est possible. Beaucoup de superstitions et de croyances à l'époque justifiaient des actes violents. Les termes dépression ou santé mentale n'existaient pas. Même s'il était enfant, mon père l'avait compris. Sa mère avait seulement besoin de repos.
Est-ce que tu en as déjà reparlé avec ton frère Lassène du fait qu'on lui a dit de tuer sa mère?
Je pense qu'il a rejeté tout ça. Et il ne veut pas, je pense, en parler.
Après m'en avoir parlé, pour la première fois, mon père raconte cette histoire chez son frère à Meknès. Pendant que mon oncle dort, sa femme, ma tante Lala Fatna et leur fille Bouchra découvrent elles aussi cette histoire.
Et moi, c'est moi qui ouvrais la porte et je rentrais avec elles pour leur montrer qu'elle n'est pas folle. Parce que sinon, elle me tue. Mon oncle, le frère de ma mère, elle voulait la tuer avec mon père. Il donnait à mon frère Lassène un couteau. Il lui dit, rentre, tu vas la tuer. Et il rentre, après, quand il rentre, commence à pleurer avec ma mère, parce que vraiment, ça, c'est des souvenirs
ouais, voilà.
Que je me rappelle.
Ça, je
lorsqu'il entend ces mots, mon oncle nous interrompt. Cette discussion a l'air de le remuer.
C'est une chose.
Et papa, tu vois, là, maintenant, vous en parlez, ça le dérange.
Secret de famille. Le traumatisme des enfants.
Ah bon?
Jamais entendu, tu vois.
Oui. C'est des secrets.
Mais c'est comme ça qu'on est arrivé chez vous.
Les deux petites voix que l'on entend sont celles de ma mère et de ma tante Lala Fatna. Avant de se marier à mon oncle, lorsque Lala Fatna était encore une enfant, c'est chez son père que Mamie Amna est allée se réfugier pour sa convalescence. Ça me fait du bien de savoir que quelqu'un lui a proposé de l'aide. Et mon père était là, à chaque moment, pour la soutenir.
Moi, j'étais petite, je me souviens que un tout petit peu, je ne me souviens pas beaucoup.
Ma mère, comme elle était tout le temps, elle allait tout le temps acheter des tissus, tout ça chez ton papa, il lui a dit, mais elle est où, Liamna? Elle a dit, oui, elle est malade, elle est devenue folle, elle a dit, ramenez-la moi.
Parce qu'il a perdu son petit enfant, et encore, il a perdu même la tête.
Voilà.
Oui,
voilà.
Mais quand
c'est
je suis grande...
En fait, elle n'a pas perdu la tête, c'est juste, elle a fait une sorte de dépression. Mais je pense à cette époque-là, on ne comprenait pas la dépression. À force d'en parler, ça remonte. Il y a des choses qui remontent.
Mais oui, c'est ce que je disais à Anissa. Je disais, il y a des choses...
C'est à force de creuser.
De creuser, après, on découvre.
Voilà, on découvre le cerveau, il commence à pop, il y a des petits flashs qui commencent à
revenir.
À revenir et tout ça.
Mustapha, Drissia, Leïla, Hussein, ce sont les noms des enfants qu'elle a perdus. Je ne savais rien de tout ça. Mon père, lui, ne savait pas tout. Ça m'a fait un choc.
Mustapha. Il y avait Mustapha qui était au même moment malade. On est tous les deux malades au même moment. Ma mère, elle est partie chez le gardien. Il lui a dit, viens, mes deux enfants sont malades. Et il lit le Coran et tout ça. Il lui dit, il y a un des deux qui va mourir. J'entendais ça. Donc, mon frère Mustapha, il est mort. Et moi, je suis resté.
Mais Rayat, il disait qu'il y en avait deux autres qui étaient morts et qui ne savaient pas.
Hussein.
Oui, ouais, apparemment, mon papa il était jumeau. Il a un trou dans l'oreille parce que comme elle perdait beaucoup d'enfants, il fallait qu'elle perce l'oreille de ses enfants pour qu'elle puisse les garder vivants. Quoi. Pour une maman qui perd beaucoup d'enfants,
oui, c'est
pas... C'est assez de perdre plus que la tête. Hein.
C'est vraiment la campagne. C'est vraiment la campagne. Si tu arrives à dépasser, à s'en sortir, mais c'est bien, c'est bon, tu vas très loin. Si tu n'arrives pas, mais tant pis pour toi. Tu guéris ou tu crèves. Il n'y a pas d'autre solution.
je crois que je commence à comprendre quelque chose d'essentiel. À une époque où la mortalité infantile était aussi élevée, et pour une mère qui a perdu autant d'enfants, comment le jour de la naissance, qui ne garantit pas la vie, peut-il être un jour à célébrer et à retenir ? Aujourd'hui, il pleut à verse et j'ai l'impression qu'on ne la trouvera pas cette date. Mais je veux parler à quelqu'un pour avoir des informations sur les registres de naissance dans les années 50. Donc je traîne mon père avec moi à l'état civil de Maya.
C'est
Anissa.
Oh,
elle
était petite.
Elle
est belle.
Elle
est belle.
Alors,
tu es douce. Ça va, Anissa. Alhamdoulilah. Elle était toute petite. Oui, c'est ma tante.
Pour une fois, on a de la chance. C'est même un cousin qui me connaît, mais que je ne connais pas, qui nous accueille à l'état civil du village.
Voilà, c'est l'acte de naissance, c'est ton papa. Ahmed Rami. Il est né en 1949.
49
À l'époque, il est inscrit en date de naissance 1949. Voilà, c'est la copie intégrale.
Il a trouvé, c'est ton acte de naissance.
Oui, mais la date de naissance, c'est...
Ton père, il a écrit que tu étais né en 1949. Mais on pensait que son père s'était trompé avec 1953 pour lui. On s'est dit, est-ce qu'il a fait une erreur ?
Une erreur. 1949. Peut-être que ce n'est pas son papa qui a fait une erreur.
Oui, c'est ça.
Peut-être que c'est le fonctionnaire qui est inscrit.
Oui.
Fait une erreur.
Oui, ouais. C'est ça.
Voilà.
Merci beaucoup.
Marhaba, avec plaisir. Marhaba. Shukran.
Shukran.
Alors là, c'est le clou du spectacle. Mon père est né en 1949. Puis, sans que l'on sache pourquoi, il a été rajeuni quelques temps avant son départ en France. Et c'est cette date de 1953 qu'il a suivi toute sa vie. S'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que le jour de naissance, ici, n'est ni sacré, ni à célébrer, c'est un jour comme les autres. Alors pour éviter le service militaire, pour immigrer, pour faciliter des démarches administratives, tout est possible, et même changer de date de naissance. Apparemment, pour mon père, l'expression « la nuit porte conseil » marche vraiment. Le lendemain, il se réveille tout enjoué. Il a l'air d'avoir accepté cette date de 1949. Sur le moment, j'ai du mal à comprendre ce changement brusque. Mais je crois qu'il a trouvé la pièce du puzzle qui lui manquait.
C'est bizarre. À la limite, je suis satisfait que je suis né en 49. Quand je me regarde dans le miroir, je dis « Oh, j'ai 53, je suis vieux avec 53. » Mais maintenant, c'est pourtant 49, c'est plus vieux, mais je suis content. Mais parce que ça correspond exactement à mon âge. À mon âge par rapport à la photo.
On a fini par trouver la date de 1949. T'en penses quoi, toi, de cette date ? Est-ce que c'est la bonne ?
Ah bah alors là, moi j'étais la première étonnée. J'ai commencé par dire, bon bah non, là ça va plus du tout. Parce que quand on s'est marié, il y avait une date de naissance qui était 53. Et là, maintenant, tu es né en 49. Bah, quand même, je me suis fait avoir sur la marchandise.
Et du coup, comme il a quand même pris 4 ans de plus, est-ce que tu penses que ça l'a inquiété ? Ça a changé quelque chose ou...
Il a tellement vécu avec des dates qu'il ne connaissait pas ou des dates qui ne voulaient rien dire que du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, ça l'a intéressé parce qu'il s'est dit « je vais l'avoir, ma date ». Mais là, maintenant, quand il voit que... Même au Maroc, avant de partir, il nous a dit « Ah ouais, non, mais c'est n'importe quoi, on n'arrive à rien ». Il m'a dit plusieurs fois que ça, c'était très content d'avoir fait ce cheminement cet été-là. Avec toi, Anissa, il a partagé des choses très, très importantes.
Une secrétaire de la banque m'a dit « Mais quel âge as-tu ?» J'ai dit « J'ai 70 ans ». Elle m'a dit « Bah, vous ne le faites pas ».
Maintenant, tu dis que tu as 70 ans, mais selon ta nouvelle date, tu as 74 ans même. Mais tu dis pas encore que tu as 74 ans aux gens.
Non, mais moi je veux vieillir en marchant, en réfléchissant, en pensant, en critiquant. Et tout ça, ça contribue à vieillir d'une façon correcte.
Si aujourd'hui je te dis « Papa, t'es né quand ?», tu me réponds quoi alors ?
Je suis né dans les années 49. Voilà. Nous sommes en 2023, ça fait 74 ans. Voilà. Et c'est pas grave, c'est... C'est pas l'âge qui conditionne l'homme, c'est l'homme qui conditionne l'âge.
T'es vraiment un poète. En cherchant sa date de naissance, mon père s'est confronté à son histoire et surtout à son âge. Difficile de trouver une fin, alors qu'il reste pas mal de questions sans réponse. Chercher une date de naissance au cœur d'une histoire aussi complexe que celle de l'immigration, du déracinement, du nouveau départ, c'est presque mission impossible. Avec le recul, ce qui est fou, c'est que depuis le début, il avait des indices pour trouver sa date de naissance. Mais je crois qu'il a eu besoin de tout ce cheminement pour accepter de vieillir.